Bonjour, nous accueillons aujourd'hui à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Normandie Sabine Guichet-Lebeilly, coordinatrice de l'association Néode 2030, Néode Normandie Entreprise ODD, Objectif Développement Durable 2030, dans le contexte de présentation du rapport du GIEC international le 28 février dernier, dans le contexte aussi, vous le savez, de l'engagement de la CRCC à soutenir les actions de cette association. Nous sommes membres fondateurs de Néode 2030. Sabine, première question, est-ce que ce rapport du GIEC n'est pas un petit peu éclipsé par le climat international, les tensions en termes de crise sanitaire, les tensions avec la guerre en Ukraine? Est-ce que tu n'as pas peur que tout ça passe un petit peu au second plan ou que certains aient un réflexe de repli et de dire, bah, finalement, tous ces objectifs ODD passent en second plan par rapport à l'objectif de survie à court terme dans un environnement très anxiogène?
Bonjour Simon, merci de m'accueillir. Pour répondre à cette première question, évidemment que oui, il n'y a qu'à ouvrir les informations, la radio, la télévision pour se rendre compte à quel point, et même à écouter la campagne présidentielle, pour se rendre compte à quel point nos problématiques actuelles, la guerre en Ukraine, la fin de la pandémie, enfin espérons, évidemment éclipsent les problématiques de changement climatique, la nécessité de l'engagement de tous pour lutter contre ce réchauffement. Alors, OK, on peut s'inquiéter de cela, mais ça ne change rien. Le climat continue son évolution. Le changement climatique est en cours et de toute façon, nous devons nous en occuper, Covid ou pas, guerre en Ukraine ou pas, et je dirais même tout ce qui va suivre ou pas. Parce que n'importe comment, on rentre en période instable et effectivement, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des dirigeants vont avoir à manœuvrer, j'allais dire, en période de tempête dans les années qui viennent. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut se préparer et il faut s'armer.
Bon. Alors, pour recentrer par rapport au sujet de notre débat de ce matin ou de notre échange de ce matin, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce qu'est le GIEC, pour ceux qui ne connaissent pas bien, et surtout quels sont les principaux points d'alerte qui sont mis en exergue par le rapport du GIEC qui a été publié en février dernier?
Tout à fait. Alors, un petit rappel d'abord. Le GIEC, ça veut dire Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. GIEC, ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un organe des Nations Unies, hein, qui évalue tous les travaux scientifiques au monde qui sont consacrés au changement climatique au pluriel. Donc voilà, ça a été créé en 88. Donc le GIEC régulièrement fournit des rapports aux chefs d'État, aux gouvernants. Le dernier est sorti en 2015 en trois parties. Cette année, depuis 2021, un nouveau rapport est sorti en trois parties. Il y a eu un premier rapport qui est sorti au mois d'août sur toute l'évolution du climat, les constats de l'évolution du climat. Un deuxième rapport qui vient de sortir là, en février sur les impacts, l'adaptation et la vulnérabilité de la Terre au changement climatique. Et il sortira en fin d'année un rapport 3 sur l'atténuation, comment on fait, hein, l'atténuation du changement. Voilà. Donc c'est ça le plus important à retenir. Ce qui est à retenir aussi, c'est que pour ce rapport numéro 2 qui vient de sortir, il y a eu 270 auteurs et 675 co-auteurs et qui ont travaillé sur 34 000 études scientifiques rendues à travers le monde. Donc, vous imaginez le travail qui a été fait. Donc, il y a eu des dizaines de milliers d'observations et ça a été validé par l'ensemble des États, 165 États qui font partie du GIEC et qui ont validé ce rapport. Ça, c'est pour dire comment ça se passe pour publier les rapports, d'où ça vient, c'est excessivement sérieux. Et aujourd'hui, on a quand même l'ensemble de la communauté scientifique et même l'ensemble des pouvoirs publics sont d'accord sur les constats. C'était le premier rapport. Et là, sur les impacts, sont d'accord aussi puisqu'ils ont validé le rapport. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce deuxième rapport? Il dit quand même qu'il est encore possible d'agir. C'est peut-être le plus important des messages. C'est que malgré les avancées, ce qu'on va voir un peu après, les autres points, il est encore possible à condition d'agir maintenant. Alors, on a l'impression d'entendre ça depuis des dizaines d'années, mais n'empêche que là, la fenêtre de tir, elle est de 10 ans, c'est rien, c'est vraiment plus rien. On peut encore espérer, alors non pas revenir en arrière, c'est trop tard, mais s'adapter et atténuer certains aspects à condition de s'y prendre tout de suite. Hein. Il a été maintenant validé par le premier rapport d'août que le changement climatique est dû aux activités humaines, celui qu'on vit en ce moment, parce qu'il est tellement rapide qu'il est effectivement dû aux activités humaines, et que donc les perturbations sont généralisées dans la nature et elles affectent évidemment la vie de milliards de personnes, d'animaux aussi évidemment, de systèmes et d'écosystèmes. Donc ça, c'est sûr, maintenant il est encore possible de faire quelque chose. Deuxième élément important à retenir, c'est que les risques sont croissants et donc plus on agit vite, plus justement on va limiter cette croissance des risques. Alors, on sait bien ce qui se passe, hein, les vagues de chaleur, les dômes de chaleur, les sécheresses, les inondations. Bon, tout ça agit sur les seuils de tolérance de la Terre, des écosystèmes, et ça provoque à travers le monde, évidemment, je vous donne des exemples, des mortalités d'arbres massives, des coraux, et tout ça, ces phénomènes extrêmes arrivent partout sur la planète, et ils ont des répercussions en cascade. C'est tout ça l'inquiétude, c'est que ça provoque ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Donc, on ne sait pas à quel moment on passe une frontière pour laquelle on ne pourra pas revenir en arrière. On ne sait pas à quel moment on passe la frontière. C'est comme une échelle que vous descendez, à un moment, vous ne voyez plus. Vous ne savez pas si vous sautez, si vous êtes à 2 mètres ou à 200 mètres. C'est ça le problème qui est en train de se passer. Difficile de… Voilà. Donc, le troisième point de ce deuxième rapport, c'est qu'on doit préserver et consolider la nature parce qu'elle va nous aider à lutter contre le changement climatique. C'est ça aussi qui est assez nouveau. On s'est rendu compte que la nature a un gros potentiel pour diminuer les risques climatiques parce que des écosystèmes en bonne santé sont résilients. Ils procurent des services vitaux comme la nourriture, comme l'eau, et donc peuvent permettre dans beaucoup d'endroits dans le monde de lutter contre le changement climatique. Ce qui veut dire qu'il faut absolument préserver ce qui reste en écosystème naturel. Très, très important. Chez nous, un exemple, par exemple, ne pas enrocher les côtes et enlever des zones humides des côtes. Ne pas faire ça, par exemple. Ça aggrave les phénomènes. Donc, ça, tous ces défis-là ne peuvent pas être relevés si tout le monde s'y met pas. C'est-à-dire aussi bien les gouvernements, le secteur privé, les sociétés civiles. Et le GIEC recommande particulièrement de tenir compte de ce que connaissent et de ce qu'ont fait les savoirs autochtones et locaux, les populations autochtones qui ont développé des modes de vie particulièrement résistants et adaptés et liés aux écosystèmes naturels. Donc, voir comment est-ce que grâce à ces peuples-là et leurs savoirs, on peut les adapter nous aussi sur nous. Et le dernier point le plus important, parce que la population mondiale est concentrée dans des villes, c'est que les villes vont être excessivement sensibles aux impacts, d'autant qu'une grande partie de ces villes sont en zone fluviale ou portuaire, au bord de mer. Donc là, on a un énorme défi à cause de l'urbanisation croissante, et il y a des risques très complexes, hein, parce qu'il y a des croissances mal planifiées, des niveaux élevés de pauvreté et de chômage. Alors, il faut savoir aussi que c'est malheureux, mais c'est ceux qui, quelque part, ont le moins contribuer au changement climatique et à la pollution qui vont être les plus touchés. Donc l'Afrique, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, l'Asie du Sud. Et ceux-là, évidemment, sont des populations aussi beaucoup plus pauvres et qui vont avoir plus de mal à lutter aussi contre le changement climatique. Donc le rapport recommande absolument les transferts de fonds, l'aide, de façon à ce que les solutions qu'on développe pour les pays développés soient aussi proposer aux pays les plus pauvres et qui sont souvent les plus habités, hein, les plus non avec le nombre d'habitants le plus élevé, surtout dans des villes qui sont incapables de faire face à ce qui va leur arriver en matière de changement climatique. Donc il faut associer tout le monde, c'est un défi, hein, à cette planification et veiller à l'équité et à la justice entre les différentes parties du monde. Bon, alors évidemment, on se sauvera ensemble ou pas du tout, c'est un peu ça que ça veut dire. Hein. Le rapport dit aussi qu'il y a de moins en moins de temps pour agir, que c'est un défi mondial avec des solutions locales. Ça aussi, on trouve dans le rapport, c'est mon dernier point, c'est que le rapport a travaillé sur ce qu'ils appellent les échelles régionales. Alors attention, une échelle régionale pour le GIEC international, c'est la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Afrique de l'Ouest, voilà, c'est ça les régions. Hein. Et donc, ils ont proposé un certain nombre d'actions spécifiques pour ces régions qui rencontrent des problématiques communes. Toute la Méditerranée est en train de s'assécher, etc. Donc voilà, ils terminent en disant que les éléments scientifiques sont sans équivoque, que le changement climatique menace le bien-être de toute l'humanité et la santé de la planète, et que tout retard dans l'action mondiale concertée fait perdre un temps précieux et limité pour instaurer un avenir viable. Voilà.
Je crois qu'on est clair sur les enjeux. Ils ne sont pas que écologiques, ils sont aussi économiques, démographiques, sociaux. Et finalement, l'argument de certains qui est de dire oui, mais que font les autres avant d'engager une propre démarche, finalement, fait que le risque est que personne ne se mette en mouvement. Alors, on se connaît depuis un an, Sabine, et tu avais eu la gentillesse de m'inviter à la présentation du pré-rapport du GIEC Normand en juin dernier à l'hôtel de région à Caen. Et j'avoue que sans être un climato-sceptique, là, j'ai été frappé par des éléments très concrets. Très concrets parce que on visualise les enjeux en termes de trait de côte, c'est-à-dire de salinité des nappes phréatiques qui servent l'agriculture dans la région. On visualise des zones qui deviennent inhabitables alors qu'elles sont habitées aujourd'hui, et ça à une échéance qui n'est pas à 2100 mais à 2050. On visualise l'inondation de la baie de Seine, en ce y compris des zones industrielles avec des sites classés Seveso, et on n'est pas dans des scénarios catastrophistes de plus 8 de plus 8 degrés d'augmentation de la température. On est bien en deçà. Et là, on se dit, oui, il y a urgence. Il y a urgence, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le GIEC Normand, déjà, peut-être précise-nous ce que c'est, depuis quand, pourquoi, voilà, pourquoi cette initiative spécifique de la Normandie pour contribuer aux travaux du GIEC?
Alors, le GIEC Normand, c'est une association d'universitaires, on va dire, voulue par la région et par l'université, qui regroupe des scientifiques normands, dont sous la direction de deux professeurs, professeurs Léniel et Costa, qui font aussi partie, qui travaillent aussi avec le GIEC international et qui essayent finalement d'appliquer sur le territoire normand un petit peu la même chose que ce que fait le GIEC, l'ensemble de faire des synthèses de l'ensemble des études qui remontent des différents organismes scientifiques sur ces questions-là, comment l'impact du changement climatique sur la Normandie se traduit. Donc, ils ont présenté un état des lieux complet à l'horizon 2100, mais il faut pas s'arrêter sur 2100. C'est tout de suite que ça a un impact. Hein. Faut bien le comprendre. Quand on est un chef d'entreprise, on a besoin de voir tout de suite quelles sont les implications de ce changement climatique sur son activité. Donc, faut savoir que la Normandie, elle est particulièrement vulnérable au changement climatique, hein, notamment à la montée du niveau des eaux de la mer. Alors, il y a des problématiques en termes d'érosion de la côte, d'inondation des terres, d'effondrement de la pêche. Il y a une hausse de température qui a déjà des conséquences sur l'ensemble du territoire. Donc, le GIEC Normand a étudié ça. C'est donc, on peut appeler ça, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat en version locale. Ils sont pas optimistes, hein. Ils ont 9 points. Hein, qui va de la qualité de l'air et de l'eau à l'évolution, comme je dis, du trait de côte, l'étude des biodiversités terrestres marines. Ils dressent un état des lieux complet. Et les résultats avaient été dévoilés donc à l'automne dernier sur la base de travaux scientifiques. Hein, et c'est une équipe de 23 experts régionaux de toutes les universités de Normandie qui travaillent. Donc, alors, faut savoir que près des 2 tiers du littoral sont concernés par l'érosion. Faut savoir également qu'on a des stocks de poissons qui sont effondrés et des sols qui sont appauvris. Ça, c'est vraiment important pour un certain nombre de métiers, l'agriculture, la pêche. Ils indiquent aussi qu'il faut les résultats, enfin, nous amènent à demander à ce que toutes les initiatives régionales et européennes soient fédérées, fédérées pour réussir à rendre la région, on va dire, exemplaire, hein, pour tout ce qui concerne les actions à mettre en place pour lutter contre ce changement climatique. Donc, voilà, maintenant, on peut proposer à tous ceux qui nous écoutent d'aller sur le site du GIEC Normand, où par beaucoup d'animations, beaucoup de PowerPoint très clairs, ils vont pouvoir regarder ce qui concerne leur activité particulière, mais de toute façon, toutes les activités sont touchées.
Alors, tout à fait. Le site du GIEC Normand, je le recommande. En termes de pédagogie, de sensibilisation, il y a des PowerPoints, mais il y a surtout des contributions en forme vidéo de 5 minutes à 1h30 de conférence. Donc, tout le monde peut y trouver le format et le degré de précision qui l'intéresse. Mais en tout cas, allez-y, c'est accessible, c'est en libre accès, sur Internet.
Alors, c'est vrai que c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que l'ensemble des les entreprises et les dirigeants, les chefs d'entreprise, ils ont, je leur dis toujours, pour savoir comment mettre en place une stratégie de réponse, faut savoir contre quoi vous vous battez. C'est un peu, désolé d'employer une terminologie un peu guerrière en ce moment, mais c'est vrai que si vous savez pas contre quoi vous vous battez, vous pouvez pas mettre en place la bonne stratégie pour lutter. Donc, on a tous à mettre en place des stratégies dans nos entreprises pour lutter dans notre activité, dans notre secteur d'activité, pourquoi pas avec les entreprises qui sont sur le même territoire que nous, ou dans le même champ d'activité, petit à petit, mais pas trop petit à petit. On a vraiment maintenant besoin de rentrer dans le concret. Il faut démarrer pour tous ensemble, sur la Normandie, être exemplaires pour répondre aux problématiques qui nous attendent.
Tu dis deux choses qui paraissent presque opposées dans cette dernière phrase, Sabine. Être exemplaire et démarrer. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les plus grands succès, les plus grandes ascensions commencent toujours par des petits pas. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas de mauvaise façon d'y aller, il n'y a pas de mauvaise raison surtout d'y aller, et qu'il faut avoir des ambitions réalistes, pragmatiques, parce que si on vise tout de suite, je dirais, des objectifs qui paraissent inatteignables, risque de se provoquer un phénomène de découragement, de dire non, je n'en suis pas capable ou je n'y arriverai jamais. Et en fait, c'est contre ça aussi qu'il faut lutter. C'est de dire, finalement, ne regardons pas ce que font les meilleurs ou ce que font les mauvais élèves qui ne font rien, mais regardons ce que nous pouvons faire et mettons-nous en mouvement. Et en brisant l'inertie, on se rend compte qu'on arrive à faire énormément de choses.
Alors, c'est d'autant plus vrai qu'en fait, faut pas parler. Moi, je ne parlerai pas forcément de petits pas, parce que déjà, la plupart des entreprises font des choses, même sans le savoir, elles ne l'ont pas formalisé, mais elles le font déjà. Ne serait-ce que parce que ça fait des économies.
Tout à fait.
Hein, on fait des économies d'énergie, on fait attention à ses déchets et on fait des économies. Pour l'entreprise, c'est intéressant. Et ça, on ne l'a pas forcément théorisé, on n'en a pas forcément fait déjà une stratégie, alors que c'est déjà un début de quelque chose. C'est vrai qu'il n'est plus vraiment temps de dire on fait des petits pas au sens, par exemple, je fais du tri, je fais dans, ça je parle peut-être pour les particuliers, mais je sais que déjà les chefs d'entreprise sont sensibilisés. La plus grosse question, c'est comment je fais? Ça, c'est compliqué parce que la plupart des dirigeants sont tout seuls, n'ont pas de personnel dédié sur RSE, environnement, transition. C'est le chef d'entreprise qui a tout ça sur ses épaules. Et évidemment, si on n'est pas accompagné, c'est compliqué. Il existe des accompagnements, il existe des financements, des prestataires, des dispositifs. Et grâce à ça, en fait, très vite, un chef d'entreprise qui démarre se rend compte que non seulement il fait déjà plein de choses, mais qu'il y a beaucoup de choses accessibles, qui sont des opportunités, qui permettent non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir un impact sur sa marque employeur, sur sa clientèle, sur son recrutement et ses salariés. C'est le moment. C'est le moment. Il faut se lancer. C'est pas si compliqué et c'est plein d'opportunités.
On est entièrement d'accord. La stratégie des entreprises qui exclurait la partie RSE, aujourd'hui, pour nous, c'est plus une option. En tant que commissaire aux comptes, on a le devoir d'alerter nos clients sur tous les enjeux. Tu l'as dit. Recrutement, marque employeur. De plus en plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, vont être capables d'accepter des postes moins bien rémunérés dans des entreprises qui, pour eux, ont du sens, entre guillemets, puisque c'est un terme à la mode. Ça va être très important au niveau commercial. Alors, notamment de par la loi climat résilience qui impose dans un délai de 5 ans aux collectivités d'intégrer un scoring spécifique RSE dans tous les appels d'offres publics, mais également dans le privé. Parce que tous les donneurs d'ordre qui vont faire travailler des PME dans leur chaîne de valeur, dans leur chaîne d'approvisionnement, ben ça va teinter leur performance en matière environnementale, notamment quand elles font un bilan carbone. Et ben, tous les fournisseurs PME qui ne sont pas capables de donner des gages sur une démarche entamée ou même des résultats vont être exclus. Ils vont être exclus du marché. Et ça, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ne l'ont pas compris. Accès au financement, des pans entiers de l'industrie financière aujourd'hui sont en train de revisiter leur stratégie en disant, nous nous désengageons de certains secteurs parce que la réglementation européenne, en ce y compris la taxonomie verte qui a été publiée fin décembre, ben, nous impose de publier des performances en termes de pourcentage de ce qu'on alloue comme financement aux différents secteurs vertueux ou au contraire diabolisés de par leur performance environnementale. Et donc, ça va créer des problèmes, on va dire dans le meilleur des cas, de spread de taux négatif pour certains secteurs d'activité, voire carrément d'impossibilité d'aller trouver des financements sur certains projets très importants pour des industries. Alors, on est loin, je dirais, de quelque chose de complètement éthéré dans un monde virtuel. C'est du concret, c'est peut-être pas aujourd'hui, mais c'est demain, et en tout cas, c'est pas après-demain, c'est à très court terme. Et là, on a un vrai rôle, nous, en tant que commissaire aux comptes, pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Alors, dans ce contexte de sensibilisation des chefs d'entreprise, parle-nous un petit peu plus de ton association, Normandie Entreprise ODD 2030. Comment est venue la construction de cette association? qui y participe et quels sont ses objectifs.
En 2020, les trois syndicats patronaux normands, le MEDEF, la CPME et l'UDP, se sont rassemblés pour réfléchir à d'abord un manifeste, essayer de travailler sur un écrit, un document qui dirait que les entreprises normandes veulent se mobiliser sur une nouvelle gouvernance climatique. Ça s'est fait, ça s'est élargi à un certain nombre de grandes entreprises. À l'époque, il y en avait 23, dont la compagnie régionale des commissaires aux comptes, pour essayer de peser sur le territoire et de mettre en place des outils pour aider les parties prenantes en fait de ces entreprises, les membres de ces syndicats. Il y a eu certains aussi des organisations d'entrepreneurs, des mouvements d'entrepreneurs, parce que tous ces acteurs, dont la plupart étaient réglementés, avaient très bien compris ce qui vient d'être expliqué par Simon, que les PME, l'ensemble de la sous-traitance allait être impacté fortement et gravement, s'il n'y avait pas d'évolution, par juste la législation, les obligations qui maintenant transparaissent dans tous les appels d'offres et qui écartent un certain nombre d'entreprises du marché, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait absolument créer une structure, un guichet unique par les entreprises, pour les entreprises, pour permettre à tous les dirigeants dont les entreprises ne sont pas réglementées et qui n'ont pas la possibilité d'avoir de personnel dédié, de trouver facilement des dispositifs, des financements, des prestataires pour entrer en transition. Alors, environnementale, bien sûr, mais il faut savoir que quand on commence à parler et à réfléchir à la transition pour son entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, tout est impacté. Les salariés aussi, la gouvernance. Donc, on est vraiment dans le RSE, la RSE de toute façon. Et dès qu'on commence, même au tout début, le simple fait de commencer à réfléchir avec ses équipes et de mettre en place une stratégie, ça peut déjà se valoriser dans un appel d'offres. Donc, il faut commencer. C'est pour ça qu'on a été créé. Aujourd'hui, on va être près d'une cinquantaine de membres qui sont tous des grands comptes et qui ont en commun de vouloir que leur partie prenante entre en transition, bascule, soutenir les dirigeants d'entreprise. Alors, évidemment, ça aurait dû être fait depuis 20 ans. Mais moi, je reconnais que les dirigeants n'ont pas été aidés, je le dis, mais clairement, il n'y a pas d'outils en éducation au développement durable. Mais c'est un peu la faute de tout le monde. On a considéré le secteur économique, le secteur de l'emploi, fallait pas les embêter avec ça, que c'était pas le moment. Donc, on a formé la société civile, les associations, les collectivités. Moi, je me souviens que les agendas 21 pour les collectivités, ça a commencé il y a 25 ans. Hein, et tous ces des pans entiers de la société, la recherche, l'enseignement ont été formés. Mais très peu, les dirigeants, les PME. Bon, on travaille aussi, nous, avec des organismes de formation, les OPCO, l'OPCO EP en particulier, qui, ben, maintenant, met en place des études en Normandie pour aller, évidemment, chercher les freins, les blocages, qui met en place aussi des fonds pour la formation des salariés sur ces sujets. Tout le monde a compris qu'il fallait y aller maintenant très vite. Et je crois que les chefs d'entreprise sont prêts, simplement, ils ne savent pas forcément comment faire. Donc, c'est là où il faut être avec eux, les accompagner, et que ça ne leur coûte pas. Il faut les aider même aussi financièrement. Il faut que tout le monde s'y mette, là. C'est vraiment très important. Alors, je précise quand même que la région et l'ADEME nous soutiennent, nous aident financièrement aussi pour faire ce travail-là, et on les en remercie évidemment.
Alors, peut-être, avant de conclure, rappeler que la compagnie des commissaires aux comptes n'est pas venue que pour le décorum dans cette association. Les commissaires aux comptes sont aux avant-postes du sujet de la démarche RSE des entreprises, puisque la réglementation européenne pousse à ce que les auditeurs légaux deviennent systématiquement les garants de la sincérité de l'information qui est communiquée par les entreprises en la matière. Parce qu'il va y avoir une espèce d'hyperinflation de communication sur les entreprises vertes et plus vertes que vertes. Et bien évidemment, pour que cette profusion d'informations ne tue pas, je dirais, la sincérité de la démarche, il faut qu'il y ait un tiers indépendant qui garantisse la sincérité des données qui sont communiquées. Et là, on a un vrai rôle à jouer. On a une vraie démarche qui est enclenchée au niveau national et régional en matière de formation, en matière de sensibilisation, d'appropriation des outils, de veille technologique. Et c'est au prix d'un investissement en formation des confrères que nous serons pertinents pour accompagner les chefs d'entreprise et les sensibiliser, les accompagner en termes de méthodologie, les aider à ne pas faire d'erreurs de démarche, parce que s'il n'y a pas de mauvaises raisons pour y aller, il peut y avoir des mauvais chemins ou des erreurs méthodologiques à ne pas commettre. Voilà, donc moi j'appelle les confrères à se former massivement, de manière à être des interlocuteurs crédibles. Et tu t'en souviens, puisque tu nous avais fait l'amitié de venir à notre assemblée générale en octobre dernier au Stade Malherbe, nous avions tenu deux tables rondes, dont l'une avait un titre qui pouvait paraître pompeux, mais dont le fond économique est réel, c'est faire ou contribuer à faire de la Normandie une terre d'excellence pour la RSE, parce que s'il n'y a pas un écosystème de PME vertueux, alors les grands donneurs d'ordre ne pourront pas s'appuyer sur cet écosystème pour être eux-mêmes performants. Donc, on est tous engagés, tous motivés pour faire qu'il y ait un maximum d'entreprises, quelle que soit leur taille sur le territoire normand, qui s'engagent dans la démarche et qui donc favorisent le développement, voire l'investissement de nouvelles entreprises dans la région, parce que nous serons à la pointe. Voilà. Est-ce que tout ça te paraît convergent, Sabine?
Oui, ça me paraît tout à fait convergent. Je crois que les chefs d'entreprise et les dirigeants ont les clés, parce que c'est eux qui prennent des risques, c'est eux qui connaissent parfaitement le terrain, leur activité. On ne leur a pas demandé, mais je crois que la matière grise des dirigeants et de leurs équipes rassemblées sur le territoire normand pour imaginer les modèles économiques de demain, parce qu'il va bien falloir aussi travailler ces questions-là, c'est important. Il faut les mettre dans les mains des dirigeants, ces questions-là. C'est très important. C'est à eux, avec leurs commissaires aux comptes et leurs experts comptables, de réfléchir aux nouveaux modèles économiques qu'il va falloir développer et qui vont devoir être soutenables et rentables, les deux. Et ils devront être et performants et soutenables. Alors, on va changer, bien sûr. On va changer d'équation, mais c'est aux dirigeants de trouver ces nouvelles équations. Ils vont y arriver, je suis sûre de ça. Et c'est aussi pour ça qu'on leur redonne la main avec l'association Néode, de façon à leur permettre de s'engager dans cette voie.
Écoute, merci beaucoup, Sabine, pour ton témoignage et toutes ces informations utiles. Peut-être pour terminer, trois informations pratiques. On vous le rappelle, le GIEC Normand sur Internet publie du contenu accessible à tout le monde. Rappelez l'adresse Internet de l'association neod2030.fr, donc Neod en tout en minuscule attaché, Neodd 2030.fr. Et puis bien évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de compétences professionnelles, Audit et compagnie, vous avez toute l'offre de formation qui est disponible pour les commissaires aux comptes en matière de formation à la RSE, et elle va continuer de s'enrichir. Et pour information, la thématique de l'année pour la compagnie nationale, c'est la RSE. Les assises nationales de Rennes en décembre prochain, le fil rouge, ce sera la RSE avec pas moins de 5 ateliers de formation, à la problématique RSE pour les commissaires aux comptes. Encore une fois, merci Sabine
Merci à
et à
toi.
très bientôt.
Au revoir.